L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Sans plaisir de vous recevoir, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal. D'abord les titres. Le recrutement forcé d'hommes et des jeunes par des groupes armés dans le territoire des Calais suscite une vive inquiétude au sein de la population. De nombreux jeunes fuient leur village pour se réfugier dans des zones qu'ils jugent relativement plus sûres. Ces derniers plaident pour le respect des droits humains. Et les initiatives des pays en cours offrent de résultats en dessous de la moyenne. Le cessez-le-feu décrété par l'Angola a volé en éclats. Le processus de Doha est au point mort et l'accord de Washington tarde à produire des effets. Pendant 7 ans, c'est la société civile qui pense que la classe politique devrait se focaliser sur l'urgence nationale de rétablir la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les titres, mesdames, messieurs. Myriam Bofano, c'est mon nom. Je suis à la présentation à l'ICE à Concois sur la mise en onde. En début de cette édition du journal, disons que 41 maisons calcinées, laissant plus de 105 ménages sans abri et plusieurs biens de valeur réduits en cendres, tel est le bilan encore provisoire d'un incendie survenu tôt le matin de jeudi 19 mars 2026 sur avenue Kadourou, au quartier Nyakaliba, commune de Kadoutou, en face du lycée Ouima. Selon le chef des quartiers Nyakaliba, Faustin Boroko, l'incendie serait d'origine criminelle. Des individus de mauvaise foi auraient provoqué ces sinistres alors qu'ils recherchaient de mitrailles ou restes de métaux communément appelés Mabende à Bukavu. Au total, 41 propriétaires de maisons, 64 locataires sont touchés par cette catastrophe, explique-t-il. Si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, il faut noter néanmoins que tous les biens de victimes ont été détruits. Face à l'ampleur des dégâts, le chef des quartiers plaide pour l'ouverture d'une enquête afin d'identifier les responsables et prévenir de tels actes à l'avenir. Il lance également un appel aux personnes de bonne volonté pour venir en aide aux victimes, particulièrement en cette période difficile. Il en parle dans cet élément.
Nous avons enregistré un incendie dans le quartier Nyakaliba. La cause de cet incendie serait des personnes de mauvaise volonté qui ont calciné la maison et qui avaient du carburant. Ces gens, à la recherche des fers usés, communément appelés Mabende. Malheureusement, ces gens, on n'a pas pu les récupérer étant donné que c'était dans les heures tardives. En termes de bilan, 41 maisons calcinées, donc 64 locataires, en total 105 ménages sans abri. Donc nous lançons un SOS à toutes les personnes de bonne volonté, à toutes les autorités, à tous les niveaux, aux organisations de la société civile, en fait de plaider pour que cette population puisse voir comment elle puisse retrouver la vie.
C'était là le chef des quartiers Nyakaliba, Faustin Boroko, au micro des radios Maïndéléo. Et avec vous, Hélène Boudjiriri, disons que les habitants de plusieurs villages du territoire des Calais dénoncent ce qu'ils qualifient de campagne de recrutement forcé entamée par des hommes armés et qui viserait de jeunes célibataires et même des hommes mariés dans la zone.
Dans plusieurs messages d'alerte parvenus à la rédaction des radios Maïndéléo, des témoins rapportent que les chefs des villages et sous-villages seraient même en train d'être forcés d'identifier et donner les noms et adresses des jeunes pour qu'ils soient amenés dans les bandes armées. Cela est à la base d'une forte insécurité dans la zone, ce qui pousse de nombreux jeunes et hommes à quitter leurs villages respectifs par peur de figurer sur ces différentes listes. L'on rapporte également la cible portée vers des personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité. Les habitants du territoire des Calais invitent les groupes qui combattent à épargner des civils et respecter les droits internationaux humanitaires qui interdit tout recrutement forcé ou encore l'enrôlement des enfants dans des bandes d'armée. Sous couvert d'anonymat, un des habitants s'exprime.
Nos populations du territoire de Calais en général vivent déjà la crainte, sont tenues au message qui circule selon lequel le recrutement forcé de la jeunesse et des hommes ayant encore une force musculaire dans un groupe armé est en cours. Dans certains coins du territoire, nombreux hommes sont déjà capturés. Notre demande de mettre fin à toute tentative de recrutement forcé, protéger les personnes et leurs droits civils.
Celui-ci plaide également pour la cessation des hostilités afin de permettre aux populations déplacées de retourner dans leurs villages respectifs.
Merci Hélène Boudjiriri. Avec vous, Expédie Kialou, parlant du processus de paix en République démocratique du Congo. Les initiatives en cours pour ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo affichent un niveau de performance en dessous de la moyenne au vu de résultats constatés sur les terrains au sud Kivu et nord Kivu. Ceci relève d'une observation faite par la rédaction de Radio Maindeleo sur l'évolution de la dynamique du conflit opposant la FSAM ventre au gouvernement de la République démocratique du Congo.
Le constat démontre la violation manifeste du dernier cessez-le-feu décrété le 18 février par la médiation angolaise soutenue par l'Union africaine. Alors que cette trêve visait à désamorcer la violence pour ouvrir la brèche aux négociations de paix, celle-ci a été violée au lendemain de sa mise en marche. Les lignes des fronts ont été très mouvementées au sud Kivu et au nord Kivu avec une concentration d'efforts sur les technologies aériennes de la guerre. Même au sol, en infanterie, les unités militaires restent en activité avec des accrochages signalés fréquemment. Le dernier cas remonte au mardi 17 mars où des affrontements ont été rapportés dans la plaine de la Rudizi, tout comme dans les moyens et au plateau d'Ouvira, engendrant des déplacements des populations. En parallèle, le processus pris en charge par l'État du Qatar est au point mort car aucun écho venant de Doha ne se fait entendre. D'après nos sources, les parties concernées par ce processus, à savoir le gouvernement de la RDC et la FSAM 23, s'étaient retrouvées la dernière fois à Doha le 2 février dernier. À cette occasion, elles avaient signé un document accordant le mandat à la MONUSCO et à la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et Yergel de surveiller les cessez-le-feu. Les deux organisations ont déployé une mission préliminaire à Goma et Uvira pour échanger avec plusieurs couches de la population et différentes autorités en vue d'une arrivée prochaine des troupes. En attendant ce déploiement, les affrontements se poursuivent sur terrain entre troupes combattantes et la méfiance se développe davantage entre belligérants avec notamment des langages accusatoires faisant recours aux mots violents et des attaques croisées entre eux via des communiqués et sorties médiatiques. Par ailleurs, la capitale Doha, qui servait de cadre pour les rencontres entre la FSAM 23 et le gouvernement de la RDC, est secouée par la guerre dans le Golfe avec des frappes régulières de l'Iran, ce qui à certains égards freine l'élan du processus pris en charge par le Qatar. À Washington, sous la médiation américaine, après une période de silence radio, une réunion s'est tenue le 17 et le 18 mars dernier. Selon une déclaration conjointe, le Rwanda et la RDC ont convenu des mesures pour accélérer la mise en œuvre de l'accord de Washington. Les deux parties ont acté une série d'actions coordonnées visant à désamorcer les tensions et à faire progresser la situation sur le terrain. Parmi ces mesures figure un engagement mutuel en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le désengagement programmé des forces rwandaises et la levée des mesures défensives du Rwanda dans certaines zones de la RDC. Les deux parties ont convenu aussi d'intensifier les efforts pour une neutralisation par la RDC des FDLR et la protection des civils. Il faut pourtant noter que tous ces éléments avaient été évoqués dès la signature de l'accord de Washington en juin 2025 et son entérinement en décembre 2025 par les deux chefs d'État, mais la mise en œuvre tarde toujours à se concrétiser, rappellent plusieurs analystes. Ces derniers veulent la concrétisation des engagements par des effets palpables sur le terrain, allant de la désescalade des tensions, la reprise des activités socio-économiques dans les zones en ébullition, l'organisation d'un dialogue entre Congolais, l'unification du pays et l'ouverture des banques et aéroports.
Merci Expédie Kialou. Entre-temps, la lutte interne et les rivalités au sein des institutions aggravent la crise en République démocratique du Congo et privent des milliers de familles de sécurité, de services essentiels et d'épées. C'est ce que pense Maître Maurice Mirindi, rapporteur agent du Bureau des coordonnations de la société civile au sud Kivu, dans une interview accordée à Radio Maindeleo jeudi 19 mars 2026. Pour lui, pendant que les populations vivent dans l'angoisse et la précarité, la classe politique se focalise sur des querelles politiciennes et de manœuvres pour s'éterniser au pouvoir au lieu de se concentrer sur l'urgence nationale, celle de rétablir la sécurité dans la partie orientale du pays. Il indique que tout ce qui est fait en termes de calcul politique n'intéresse pas la population qui ne souhaite que la paix. Maître Maurice Mirindi appelle les autorités à bannir les tactiques politiciennes et à recenser l'action publique sur les besoins réels des Congolais afin que la paix cesse d'être un simple vœu mais qu'elle devienne en fait une réalité. On l'écoute dans cet élément.
Ce qui choque malheureusement est que la priorité semble être donnée à autre chose qu'au rétablissement de la paix, n'est-ce pas, qu'à la cessation des hostilités. On a depuis longtemps parlé des accords et on s'imaginait que déjà au mois de mars on serait dans une situation de paix. Mais aujourd'hui, ce qu'on traverse On voit que ça prendra encore du temps. On voit même que ce n'est même pas une priorité. Ce qui est une priorité, ce sont les calculs politiques. Vous l'avez vous-même suivi. Il y a des agissements ou des agitations qui s'observent actuellement dans les salons politiques. La priorité des acteurs politiques devrait être les aspirations de la population. C'est ce qu'on devrait faire une priorité. Ce qui est une priorité pour nous actuellement, c'est le rétablissement ou le retour de la paix, dans un premier temps. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. C'est pourquoi on parle de décalage. On parle de décalage parce que plus la guerre a traîné, plus les acteurs politiques ont semblé oublier les populations qui vivent dans les zones dans lesquelles nous sommes, et plus on a oublié qu'on existait encore, et plus on se focalise à autre chose. Parce que non seulement qu'on maintient la situation telle qu'elle est, mais aussi le temps passe, au point que les politiques aussi quelque part se voient menacés par le temps, et ils se disent, ce qui est prioritaire pour eux, c'est d'abord voir comment gérer, pour, n'est-ce pas, se donner plus de temps au pouvoir. Tout cela fait qu'on ne sait pas si vraiment on va parler de la cohésion, on ne sait pas si on va parler des accords déjà signés, on ne sait pas si on va encore s'attendre au dialogue, on ne sait pas si la priorité c'est le remaniement du gouvernement, on ne sait pas si la priorité reste l'élection des deux vice-présidents, et donc on nous met dans une situation où nous sommes presque perdus.
C'était là Maître Maurice Mirindi, rapporteur agent du bureau des coordinations de la société civile du Sud Kivu. Mesdames et messieurs, en cours de diffusion, c'est l'édition du journal. C'est Radio Maïndéléo. Merci de nous rester fidèles.
Radio Maïndéléo, la radio de proximité. Plus et mieux pour et avec ses auditeurs.
Changeons de chapitre à présent dans cette édition du journal et disons que dans le marché supermarché de la ville de Bukavu, les produits alimentaires importés occupent une place de plus en plus importante et s'imposent désormais dans les habitudes alimentaires de la population, détaille Omer Bodekereza.
Selon un constat des radios Maïndéléo, des poissons surgelés, des poulets découpés vendus en morceaux et d'autres produits d'origine animale importés sont à ce jour largement accessibles à la population. Cependant, certains de ces produits sont commercialisés avec des emballages peu fiables, des dates de péremption parfois dépassées ou difficiles à vérifier et des informations peu claires concernant leur composition ou leur provenance. Selon des spécialistes et acteurs du secteur, certaines de ces marchandises seraient conservées grâce à des produits chimiques ou des additifs destinés à prolonger leur durée de conservation. Mais là aussi, la nature de ces produits n'est pas clairement indiquée aux consommateurs. Certains produits seraient même à l'origine des troubles digestifs, voire des intoxications alimentaires, et à long terme, à des atteintes pouvant toucher le foie, des reins ou encore le système digestif. Face à cette situation, des habitants appellent les autorités à renforcer le mécanisme de contrôle, aussi bien aux frontières que dans les entrepôts et les points de vente, afin de limiter la circulation des produits non conformes. Ils encouragent également les consommateurs à faire preuve de vigilance, en vérifiant les informations disponibles sur les produits et en évitant ceux dont l'origine paraît douteuse, tout en privilégiant autant que possible les produits locaux et frais, généralement mieux contrôlé et plus sûr pour la santé. À ces propos, Namegabe Kabera Leonard, de la 5e CELPA Nayote Industrielle, souligne que des services compétents devraient intensifier les campagnes de sensibilisation sur les règles de sécurité alimentaire pour protéger et sauver des vies. Il estime qu'il est bon de gagner l'argent, mais rappelle que la sécurité des populations passe avant tout. Namegabe Kabera Leonard en parle.
Dans quelques années, de nombreuses personnes pourraient mourir à cause de ces aliments contaminés, mélangés à des substances dangereuses pour notre santé. Les autorités doivent enfin se réveiller et s'intéresser à cette situation si elles se soucient réellement de notre vie. Être au pouvoir, c'est d'abord protéger ceux que l'on dirige. Nous demandons que seuls les aliments sains et sûrs soient vendus pour que nous puissions manger sans craindre pour notre vie. Nous voulons vivre, respirer et grandir en bonne santé.
La sécurité alimentaire à Bukavu dépend autant de l'action des autorités que de la prudence des consommateurs, ainsi que l'esprit patriotique des opérateurs économiques.
Merci Omer Mudekereza. Et puis les arbres abattus à différents endroits sur les tronçons à la Dinyawera jusqu'au marché des Goba ont été remplacés par ceux qui sont adaptés à la ville. Cette précision est du maire de la ville de Bukavu, Nicolas Kielangalilo, en réponse aux questionnements de la population sur les raisons qui ont poussé les autorités à ordonner que ces arbres soient coupés. Selon le maire, ces anciens d'anciens arbres menaçaient la chaussée à travers leurs racines, car ils n'étaient pas adaptés à la ville, d'où leur remplacement par des espèces spécifiques à l'embellissement de la ville. Il fait savoir que la mairie est dans le processus de reboisement de la ville depuis quelques mois et que plusieurs endroits menacés d'érosion ont déjà bénéficié de plus de 10 000 plantilles. Le but, selon lui, est de revêtir la ville de Bukavu de son image d'antan. On l'écoute dans cet élément.
Dans les priorités de la mairie de Bukavu, il y a cet objectif de rendre Bukavu verte. Nous avons commencé il y a quelques mois le processus de reboisement de plusieurs collines. Nous avons déjà planté sur le versant de la Ruzizi, dans plusieurs autres endroits qui sont menacés d'érosion dans les différentes communes, plus de 10 000 plantules. Il y en a encore que nous sommes en train de vouloir planter sur l'artère principale. Il y a quelques semaines, nous avons commencé le processus de planter des nouveaux types d'arbres qui sont spécifiques à l'embellissement de la ville. Pour ce faire, il fallait se débarrasser des vieux arbres qui étaient mal entretenus et qui constituaient déjà un danger. Il y avait aussi des arbres, principalement au niveau de Niawera, qui n'étaient pas appropriés. Ce ne sont pas des arbres d'embellissement de la ville. Les racines tombent profondément dans la chaussée et détruisent la chaussée. Donc il fallait se débarrasser de ces arbres qui aussi prennent des nutriments au détriment de nouveaux arbres que nous avons plantés.
Et dans ce même chapitre, offrir un espace d'échange entre les autorités locales, les experts et les citoyens, c'est l'objectif d'une émission publique sur la gestion des déchets et de la responsabilité citoyenne qui sera organisée dimanche 22 mars 2026. Cette émission s'inscrit dans le cadre du Mois Vert, une initiative de la coopération suisse qui vise à sensibiliser les gouvernants et gouvernés sur les enjeux environnementaux. Dans un point de presse organisé à Bukavu, jeudi 19 mars 2026, Sylvie Nabinto, le point focal du bloc Média, a dans cette campagne fait savoir que cette émission publique vise à encourager l'adoption de comportements responsables en matière de la gestion des déchets. Sylvie Nabinto s'exprime au micro de Kassami Virginie.
Les objectifs poursuivis, c'est entre autres contribuer à l'amélioration de la gestion des déchets à Bukavu à travers la sensibilisation et la mobilisation citoyenne. Également sensibiliser la population de Bukavu en général et celle de Kadutu en particulier sur la gestion responsable des déchets. Mais aussi promouvoir les actions concrètes de la campagne Bukavu Ville Verte, offrir un espace d'échange entre autorités locales, experts et citoyens, et surtout encourager l'adoption des comportements écologiques et responsables. Cette émission sera donc interactive. Nous profitons de vos micros pour appeler la population de Bukavu d'une manière générale, mais surtout celle de Kadutu, à participer massivement à cette émission publique parce que les questions environnementales nous concernent tous et chacun a une part de responsabilité.
C'était la Sylvie Nabinto. Cette émission s'étend dimanche à partir des 13h au Stadium de Bouolo 4 dans la commune de Kadutu. Et puis, aucun centimètre du marché de fer rouge ne sera vendu ou cédé à qui que ce soit dans le cadre d'une quelconque partenariat. C'est ce qu'indique le gouverneur du Sud Kivu sous l'F-123 Patrick Bousso-Bouangui-Chombo au cours d'une causerie organisée jeudi 19 mars 2026 avec le vendeur et vendeuse exerçant au sein de ces marchés. L'autorité provinciale souligne qu'un particulier voisin en dit marché avait manifesté le vœu dirigeant Omer Mitoyan pour protéger sa maison d'une part et le marché d'autre part, et c'est dans ces cadres que certains travaux ont été amorcés sur place. Il ajoute qu'au fur et à mesure que les travaux vont évoluer, certains échoppes présentant déjà des fissures seront démolis et construits par le même particulier au profit de mêmes vendeurs et vendeuses. Patrick Bousso-Bouangui-Chombo rejette en bloc les rumeurs qui ont été propagées par-ci par-là sur une probable vente d'une partie de ces marchés. Il appelle les vendeurs et vendeuses au calme en évitant d'être manipulés par des personnes de mauvaise foi. On l'écoute.
Nous avons pris un compromis avec un particulier qui va ériger un mur derrière ces marchés pour les protéger. Pour y parvenir, certaines échoppes fissurées vont être démolies et puis reconstruites de façon durable au profit des vendeurs. Où est le mal? Au sujet du marché, il est encore là. Personne ne va les spolier. Et lorsqu'il y aura un partenaire pour construire ces marchés, nous viendrons vers vous pour demander votre autorisation. Quelques 5 ou 6 personnes ont affiché des calicots comme quoi les gens vont s'entretuer à cause de ces marchés. C'est faux. Les travaux de construction de ces murs, c'est le même particulier qui prend tout en charge. Certaines personnes ont dit que les gouverneurs auraient perçu de l'argent au sujet de ces marchés. Personne n'a de l'argent à me donner ici. J'ai beaucoup d'argent.
Les mouvements nous donnent de l'argent pour gouverner et pour construire.
C'était là le gouverneur de la province du Sud Kivu, Patrick Busubangui Chombo, signalant que cette rencontre s'est tenue en présence du président de la commission en charge de l'évaluation et des suivis de l'exécution du contrat sur le partenariat public-privé, le professeur Baleke Stanislas.
La revue de presse. Radio Mindeleo Capte vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Les cas de suicide et d'incendies meurtriers devenus récurrents dans la ville de Bukavu font partie des sujets traités par la presse jeudi 19 mars 2026. Hélène Boudjiriri pour la revue de presse.
Débutons par stnews.info qui revient sur l'incendie d'origine criminelle qui a détruit plusieurs habitations dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 mars 2026 aux environs des 2h30 sur l'avenue Kadourou en face du lycée Wima dans le quartier Nyakaliba, commune de Kadutu. Selon les informations fournies par les chefs des quartiers de Nyakaliba cités par ces médias, des personnes non identifiées auraient volontairement mis les feux à des maisons dans le cadre d'une recherche de Mabende provoquant d'importants dégâts matériels. Il précise que le bilan fait état de 41 maisons calcinées appartenant à des propriétaires et de 64 logements occupés par des locataires, soit un total de 105 ménages désormais sans abri. Aucune perte en vies humaines n'a été signalée, mais l'ensemble des biens des familles a été réduit en cendres, ajoute-t-il. Face à cette situation dramatique, Buroko Faustin appelle les autorités locales à l'ouverture d'enquêtes afin d'identifier les auteurs de cet acte et de rétablir la sécurité dans la zone. De son côté, les souverains libres parlent de l'inadaptation aux réalités de la vie qui, selon lui, pousse certaines personnes à la pendaison dans la ville de Bukavu. Selon les souverains, plusieurs cas de pendaison ont été enregistrés en mars 2026 dans la ville de Bukavu et sa périphérie. Les mouvements de la société civile du Congo fustigent la récurrence des cas à en croire les tabloïdes. Le président provincial de cette structure, qui est la source du souverain, précise que les réalités de la vie poussent plusieurs personnes à la pendaison. Il cite entre autres le manque de travail, les déceptions amoureuses, les mésententes entre différentes personnes issues d'une même famille, avant de rappeler que les derniers cas remontent dans la nuit du 15 au 16 mars 2026 au quartier Panzi sur avenue Moulengueza 2. Une dame, mère de 4 enfants, s'est donnée la mort par pendaison. Plusieurs observateurs craignent le retour du phénomène Kabanga et d'autres parlent des retombées de la guerre au sud Kivu, indiquent les souverains libres. Terminons avec cette information à la une du quotidien Info 27. Sénat acculé, Bahati Lukwebo jette l'éponge. Le journal souligne que le patriarche de la FDCA a préféré prendre les devants, alors que la commission spéciale chargée d'instruire la pétition contre lui devait se mettre au travail. Le mercredi, l'intéressé a choisi de couper court à la procédure en remettant sa démission. Le sénateur Modeste Bahati Lukwebo a officiellement démissionné mercredi 18 mars de son poste de deuxième vice-président du Sénat de la République démocratique du Congo. Selon une correspondance s'adresser au président de la Chambre haute, Jean-Michel Samaloukonde. Dans cette lettre, l'élu du Sud Kivu invoque un souci d'apaisement institutionnel. À la suite du climat politique actuel et pour préserver la sérénité des travaux au sein de notre prestigieuse institution, j'ai décidé de remettre mon mandat de deuxième vice-président à la disposition du bureau, écrit-il. Info 27 note que cette démission intervient dans un contexte de pression politique alors que le Sénat venait d'enclencher une procédure visant sa déchéance. Déposée le lundi 16 mars à l'initiative du sénateur Danny Kabongo, une pétition à charge contre Modeste Bahati Lukwebo avait recueilli 83 signatures sur les 109 membres de la Chambre.
Un communiqué avant de clôturer cette édition du journal, la plateforme des Bubilangues, initiative dédiée à la promotion de la voix de la jeunesse congolaise, ouvre officiellement les candidatures pour la deuxième cohorte de jeunes leaders engagés en République démocratique du Congo, lancée en 2022 par la délégation de l'Union européenne en RDC de Bubilangues, a pour objectif de renforcer la participation des jeunes au débat public et aux dynamiques de développement du pays, tout en favorisant un dialogue constructif entre la jeunesse congolaise et le partenaire international. La première cohorte a réuni 22 jeunes issus de plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, engagés dans des domaines variés tels que l'entrepreneuriat, l'éducation, l'environnement, la culture ou l'engagement citoyen. Pendant plusieurs mois, ils ont participé à des formations, des ateliers de réflexion, de rencontres avec des acteurs de développement et des débats sur les grands enjeux qui concernent la jeunesse congolaise. Fort de cette première expérience, le programme poursuit aujourd'hui sa dynamique en lançant le recrutement d'une nouvelle cohorte de jeunes leaders âgés de 18 à 29 ans, ici de différents horizons, étudiants, entrepreneurs, artistes, membres d'organisations de la société civile ou porteurs d'initiatives citoyennes. Le candidat sélectionné intégrera une plateforme nationale de dialogue et de formation qui leur permettra de renforcer leurs compétences, d'échanger avec des experts et des décideurs et de développer des initiatives ayant un impact positif dans leur communauté. Le programme comprend notamment des formations thématiques sur les enjeux du développement, des ateliers pratiques et séminaires, des rencontres avec des acteurs majeur du développement en République démocratique du Congo, ainsi que des espaces de dialogue et des réflexions sur les grands défis de la jeunesse congolaise. Fondée sur les valeurs d'engagement citoyen, d'inclusivité, de responsabilité des transparentes, de Bubilangues visant à accompagner une nouvelle génération de jeunes leaders capables de contribuer activement à la transformation sociale, économique et culturelle du pays. Le processus de sélection est ouvert, équitable et transparent et repose sur la motivation, l'engagement citoyen et les potentiels du leadership des candidats. Les jeunes âgés de 18 à 28 ans engagés dans leur communauté ou porteurs d'un projet d'impact sont invités à déposer leur candidature via la plateforme en ligne. Les candidatures sont possibles jusqu'au 5 avril 2026. Si vous rencontrez un souci technique ou si vous avez une question concernant votre candidature, contactez-nous à l'adresse mail suivante debubilangues.ie@gmail.com. Ainsi s'achève cette édition du journal aussi Radio Maïdéléo. Mesdames, Messieurs, Myriam Moufadon, c'est mon nom. J'étais à la présentation, Anissé Akonkwa sur la mise en onde. Au revoir et prenez soin de vous.